Voyage au fleuve des gazelles, Nil blanc, par Monsieur Angelo Bolognesi, 1856-1857. À Monsieur Édouard Charton, Paris, le 23 mai 1862. Mon cher ami. Dans mes notes de voyage datées de Khartoum, du 3 septembre 1860, je vous parlais rapidement d'un jeune négociant ferrare, Monsieur Angelo Cartel Bolognesi, établi depuis quelques années à Khartoum, et qui m'avait offert une hospitalité cordiale. M. Bolognesi, venu très jeune en Égypte, avait débuté par faire le commerce du fleuve blanc comme employé de M. Petherick, aujourd'hui consul anglais au Soudan. Plus tard, il s'était adonné à l'important commerce des cires d'Abyssinie pour le compte d'une maison du Caire. Notre amitié s'était fortifiée d'une entière conformité de pensée et de conduite dans la question la plus brûlante de l'Afrique centrale, celle de la traite des esclaves. Et l'on verra par le récit qui suit que M. Bolognesi ne s'est pas contenté, en face des malheureux qui vivent de ce négoce, d'une stérile abstention. Je savais que, comme tous les commerçants européens de Khartoum, M. Bolognesi tenait un journal méthodique de ses voyages. Je dirais par parenthèse que si ces journaux venaient être publiés, la source de nos connaissances sur le pays du Nil blanc doublerait du premier coup. J'ai donné deux fragments du journal de M. de Bonneau, dont un dans le Tour du Monde. Un employé de M. de Bonneau, Terra Novra, a publié le sien en italien. M. Petherick, les missionnaires Kaufmann et Beltram ont donné leurs souvenirs du Nil blanc et le docteur Petermann a publié le journal posthume de Brun Rollet. Les frères Panot nous promettent leur journal de chasseurs d'éléphants dans un an ou deux. Je vous donne aujourd'hui les notes que j'ai obtenues de M. Bolognesi sur le fleuve des gazelles et je ne puis que souhaiter, dans l'intérêt de votre publication, qu'il veuille les faire suivre de souvenirs de ses voyages en Abyssinie. Il a du moins bien voulu me les promettre. Agréé, Guillaume Lejean. Chapitre 1er. Départ de Khartoum. Entrée du fleuve. Le lac No. Mœurs des tribus des Gikena. Lac et marais. Hippopotame. Le 27 novembre 1856, à 8 heures du soir, je quittais Khartoum dans une barque lourdement chargée, avec 12 soldats, 8 marins, 2 drogmans, 2 esclaves cuisinières de l'équipage, 2 vieux serviteurs particuliers, et après avoir reçu les adieux de mes amis réunis à l'embarcadère, je descendais le fleuve bleu et m'arrêtais pour la nuit à la pointe de Mandjara, où se réunissent les 2 grands fleuves qui forment le Nil. Le lendemain, de bon matin, j'entrais dans le fleuve blanc par un bon vent du nord, au son du tarabouka des marins, joyeux de partir après une longue attente. Je n'ai point ici à raconter jour par jour les détails de mon voyage sur un fleuve déjà assez connu. Je dirai seulement que passant successivement le fameux gué d'Abou Zeït, la montagne des Dinka, l'embouchure du Soba, où je trouvais un camp égyptien commandé par un de mes bons amis, l'adjudant-major Salek Effendi, j'entrais le 20 décembre à 5 heures de l'après-midi dans le lac No, où le Bahr el-Ghazal se joint au fleuve blanc. Je fis jeter l'ancre à l'entrée du lac pour jouir à mon aise d'une vue qui, bien qu'elle ne fût pas nouvelle pour moi, j'avais déjà fait le même voyage au mois de mars précédent, avait un charme qui m'invitait à bien augurer du nouveau pays que j'allais voir. Qu'on se figure une nappe d'eau d'une lieue de tour entourant une île couverte d'une végétation toute tropicale. L'eau, calme, d'un azur limpide, et au milieu de laquelle le fleuve blanc dessinait sa ligne blanchâtre, était si transparente que de la barque on voyait parfaitement les poissons glisser parmi les plantes aquatiques qui tapissent le fond du lac. Le silence qui ajoutant à la majesté de ces scènes du désert n'était troublé ici que par les hippopotames qui, sortant en foule du fond de ce vaste bassin, venaient en nageant entre 2 eaux tournées autour de la barque dont la vue semblait les plonger dans une stupéfaction hébétée. Puis, s'enfonçant pour reparaître encore à la surface, il suivait la barque pendant plusieurs minutes. Le vent se leva et je repartis, me dirigeant au sud-ouest, et un petit canal me conduisit dans un second lac plus grand, où j'arrivai à 8 heures du soir. Force me fut de m'y arrêter, parce que devant moi se présentait un fouillis de roseaux, parmi lesquels s'ouvraient quelques passages, où il eût été difficile de trouver la nuit une direction quelconque. Je dus en conséquence jeter l'ancre et passer la nuit en cet endroit après avoir posé des sentinelles. Le 21 au matin, une légère brise du nord me conduisit dans un petit canal fort étroit à tel point qu'en certains endroits de Dahébié, grande barque du Nil, ne peuvent passer de front. D'épaisses et hautes forêts de roseaux rétrécissaient encore ce canal, et par instants, les deux rives semblaient se toucher. Le fleuve faisait d'innombrables détours, et nous arrivâmes ainsi chez les Nouer-Guikena, sauvages très rusés, qui ont bâti sur la rive gauche une énorme bourgade devant laquelle je m'arrêtai pour renouveler mes provisions. Il y avait plusieurs jours que nos vivres étaient réduits à des proportions inquiétantes, car depuis l'embouchure du Soba, je n'avais pas rencontré le plus petit établissement d'indigènes. Je fis divers achats, notamment un bœuf qui me coûta 15 œufs de pigeon, verroterie d'une valeur d'environ 26 centimes pièce, et que mes hommes s'empressèrent d'abattre, de dépouiller, de dépecer et de transporter à la barque. J'eus en cet endroit un curieux échantillon de la passion des Noirs pour le vol. Un homme qui était venu à la barque sous prétexte d'apporter du poisson ne craignit pas, malgré tant d'yeux ouverts sur les visiteurs, de voler un grand couteau de cuisine. Il s'enfuit aussitôt avec sa prise, mais un soldat qui l'avait vu se mit à sa poursuite avec quelques soldats. Il fut pris et porté à la barque, où il reçut la correction exemplaire de 50 coups d'un courbage en peau d'hippopotame de 2 cm d'épaisseur. Ses compatriotes, effrayés et n'ayant peut-être pas la conscience bien nette, disparurent comme par enchantement, et nous-mêmes ne tardâmes pas à ouvrir notre voile, un léger vent du nord. Ce jour-là, comme la veille, une forêt de cannes ne cessa d'embarrasser notre marche, et nous filâmes toute la nuit et le jour suivant avec un vent léger dans la direction de l'ouest. Quelquefois j'étais obligé de faire descendre les mariniers pour remorquer la barque et la sortir des écueils avancés que nous rencontrions dans les détours que nous devions faire au milieu de ces marais. Je n'ai trouvé aucun village, ni aucun indigène depuis mon départ de Nouer-Guikena. Leurs feux de nuit se voyaient seulement sur les deux rives du fleuve, à peu de distance l'un de l'autre. Le 23, de bonne heure, un bon vent de nord nous pousse en avant. Le passage s'élargit de plus en plus, si bien qu'à 8 heures du matin, j'entrai dans un lac si immense d'aspect qu'il me sembla aborder la haute mer. J'en mesurai la profondeur en plusieurs endroits, et je ne la trouvais jamais moindre de 12 pieds, tandis qu'elle était souvent de 18 et de 20. L'eau en est beaucoup meilleure que celle du fleuve blanc, et plus limpide que celle du fleuve bleu. La quantité d'hippopotames rencontrés ce jour-là est incroyable pour qui ne l'a pas vu par soi-même. Il suffit de dire qu'en certains endroits ils sortaient par centaines au point de nous faire craindre une attaque. Quelques-uns, s'approchant par derrière, donnaient de temps en temps contre la barque des coups de tête si violents que je me crus un moment perdu. Heureusement, la barque était solide et le vent était assez fort. Nous pûmes nous éloigner de ces monstres avec une rame seulement rompue. À la nuit, je jetai l'ancre, toujours dans le grand lac, mais à un endroit peu profond où je pus m'arrêter. Le lendemain, 24, avant le lever du soleil, je partis et continuai à explorer le lac jusqu'à 1 heure de l'après-midi. J'entrai alors dans un canal tracé à travers le marais qui me conduisit vers les 5 heures dans un nouveau lac, au milieu duquel se trouve une belle et grande île abandonnée pour le moment par ses habitants, mais où se montraient à l'ancre 3 barques de négociants de Khartoum. Ayant amarré la mienne, je pris une petite felouque et me mis à la recherche d'un bon lieu de débarquement, et l'ayant trouvé dans un canal étroit que je jugeais devoir être d'un ancrage commode, je m'en retournai à la nuit déjà obscure. Le 25, de bonne heure, je retournai examiner le passage découvert par moi la veille, mais je dus me convaincre de l'impossibilité de sortir par là, à cause des marais qui s'y trouvent et où l'on ne peut pénétrer à pied. En conséquence, je repartis de nouveau et j'entrai dans un canal étroit qui aboutit au bout de peu de temps dans un autre et dernier lac, où j'aperçus à une grande distance les mâtures d'une 20aine de barques échouées et ancrées dans une anse qui se creusait vers le nord-nord ou qui se creusait dans le nord-nord-ouest. Le vent étant tombé vers le soir, je dus jeter l'ancre au milieu du lac à 2 lieues environ des autres barques. Le 26, 2 heures avant le lever du soleil, je pars par un faible vent de nord-est qui pourtant nous pousse en avant et vers les 8 heures du matin, j'atteins les autres barques, salué par de nombreux coups de fusil auxquels je réponds en hissant aussi mon pavillon, selon l'usage de ces pays. Après m'être informé près des hommes des équipages des routes de l'intérieur, je passai le reste de la journée à faire les préparatifs que nécessite un long voyage en terre ferme.